Voilà, j'espère que vous avez passé un bon été. Le frais est revenu, on dort mieux la nuit. Donc j'espère que vous allez être attentifs ce matin parce que on poursuit notre série sur les os de la Bible. Donc les os, c'est les choses difficiles à avaler. Vous voyez, il y a des fois des choses qui restent coincées en travers de la gorge. Et dans la Bible, il y a quand même son lot d'os qui traîne ici ou là. Et on en a abordé déjà six difficiles. Qui se souvient de ces os? Alors, j'avais commencé la série l'année dernière et on a fait avec les étudiants. Alors, celui qui a touché l'arche, il s'appelle Ouza, vous vous rappelez? C'était choquant, on voit, il rattrape une arche et boum, foudroyé net. Et là, on a regardé que finalement, il n'avait pas grand-chose à faire autour du tabernacle. Autre sujet qu'on a abordé, et c'est pas moi qui l'ai abordé, enfin moi j'en ai abordé un, s'il y a un autre, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Hein, on a vu ce texte difficile et ça faisait partie des questions qu'on pouvait se poser. Et là, pour vous rassurer, hein, si vous qui n'étiez pas là, je vous encourage à aller regarder le message parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de détails, hein, ça dure 45 minutes. Et donc ça ne nous concerne pas, c'était les pharisiens. Et surtout, c'est que les pharisiens n'étaient pas des croyants. Donc ce blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un endurcissement du cœur persévérant malgré une connaissance évidente et une révélation de Jésus. Donc ça ne concerne pas les croyants de l'Église. Donc arrêtez de trembler, ça ne sert à rien, parce que ce texte ne nous concerne pas. Et puis on avait vu l'affirmation de Jacques, et ça c'est Taïmen qui avait fait ce message-là. Ah non, c'est pas Taïmen, Taïmen il a fait sur les paroles qu'on peut pas prononcer, mais c'est donc Donovan qui avait parlé de la parole de Jacques qui dit « Mais vous voyez bien, c'est par les œuvres que l'on est sauvé et non par la foi seulement. » Et ça contredit tous les textes que l'on lit de l'apôtre Paul, et il y en a à foison dans le Nouveau Testament. Et on avait regardé de près ces deux textes pour définir que finalement, ils ne parlaient pas de la même chose. Mais je ne vous en dis pas plus. Ce matin, on a un autre os. Un autre os, et celui-là, honnêtement, tant que je n'ai pas étudié le texte, à chaque fois que je tombais dessus, honnêtement, je me disais, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Jacob, il est béni alors qu'il a vraiment floué son père? Et probablement, vous vous rappelez de cette histoire, on va la relire, parce que c'est vraiment important. Mais avant de lire cette histoire, j'aimerais vous donner une autre histoire qui, elle, est vraie. Elle s'est passée en 1925 à Paris. Et il y a un homme qui s'est fait passer pour un haut fonctionnaire. Il s'appelait Victor Lutzig. Et lui, il a convoqué dans un hôtel particulier des marchands de ferraille dans un grand hôtel. Et il leur a dit, écoutez, on va démanteler la tour Eiffel et donc la ferraille est à vendre. Qui est acheteur? Waouh, vous imaginez? C'est des milliers de tonnes de ferraille qu'il y a à vendre. Et là, donc, on reprend, on recycle, enfin bref. Et donc, il y a un gars qui s'appelait André Poisson. Lui, c'était un des riches marchands qui était là. Et il voulait absolument remporter le marché. Et donc, il a fait une proposition à 1,2 million de francs à l'époque. Ça représente, en gros, 4,2 millions d'euros. Hein, ou de francs suisses actuels. Donc vous voyez, c'est déjà une belle petite somme. Et pour être sûr vraiment de remporter le marché, il a glissé une petite enveloppe à cet homme de 70 000 francs. Donc ça ferait 200 000 francs suisses aujourd'hui ou 200 000 euros. Donc vous voyez, ce n'est pas des petites sommes ici. Hein. Et donc, bien évidemment, la tour Eiffel n'a jamais été à vendre. Elle n'a jamais. C'est tout du fake, en fait. C'était une escroquerie monstrueuse. Et donc, ça a été révélé. Et figurez-vous que M. Poisson, qui a déversé ses 4,4 millions de francs, n'a jamais rien réclamé. Parce qu'il avait trop honte de s'être fait flouer pour une arnaque aussi grossière. Et donc, il n'est pas revenu sur sa décision parce qu'il avait honte devant ses collègues et il n'est jamais allé déclarer à la police cette escroquerie. C'est un fait de l'histoire quand même, mais c'est le monsieur a fait une belle opération. Hein. Et je pense qu'il y a des petits malins aujourd'hui qui pourraient faire la même chose. C'est fréquent, surtout dans notre région, où il y a pas mal d'argent, il y a beaucoup d'arnaques. Donc on ne va pas parler de Genève, mais on va revenir à la Bible, parce qu'il y a un épisode où il y a une grosse arnaque. Honnêtement, quand on la lit, on a l'impression d'une grosse arnaque. Et on va lire ce texte, parce que c'est ce texte qui nous choque, et qui me choquait. Et je sais pas, si vous ne l'avez jamais lu, alors je vous invite à l'écouter. Il y a 41 versets, vous ouvrez votre Bible au chapitre 27 de la Genèse. Et on va lire les 41 premiers versets. D'accord ? C'est pas moi qui vais lire, comme c'est long, j'ai demandé à des acteurs professionnels de le faire, et donc ils vont le faire à ma place. Mais le texte sera projeté ici.
Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit
« Mon fils,
me voici.
Je suis maintenant âgé. » Et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir.
Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob
« J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre deux bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu le lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse avant sa mort. »
Jacob répondit à sa mère.
« Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction, et non la bénédiction. »
« Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. » Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux.
Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Puis, elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit
« Mon père,
me voici. Lequel de mes fils es-tu ? » ?»«
Je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. »
« Comment cela ? « Tu en as vite trouvé, mon fils. »
« C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. »
« Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. »
Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha, et dit
« La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. »
Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit
« Est-ce bien toi, mon fils, Ésaü ?»«
C'est moi. »
« Serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. »
Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit
« Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. »
Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant
« L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre. » Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront.
Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara, lui aussi, un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père
« Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. »
« Qui es-tu ? »
« Je suis ton fils aîné, Ésaü. »
Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et dit
« Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. »
Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Et il dit à son père
« Bénis-moi aussi, mon père !»
« Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. »
Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?
Je l'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?
N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père.
Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit
« Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. »
Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur
« Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. »
Fin de la lecture de la parole de Dieu, mes amis. Quel sentiment avez-vous à la lecture de ce texte ? Est-ce que vous trouvez ça bien, juste ? C'est biblique, c'est dans la Bible. Alors, quelles sont vos réactions ? Vous trouvez ça injuste ? Pardon ? C'est Dieu qui sait, c'est ça ? Mais première réaction à chaud comme ça, on lit que ce texte. On trouve ça injuste. Il a clairement piqué la bénédiction à son frère. Hein, il s'est fait passer pour lui, donc vous voyez qu'il y a quand même, il le floue. On ne peut pas dire que Jacob a bien agi, même si la Bible dit que Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü, on verra que ce n'est pas forcément sur cet épisode-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une grosse arnaque là dans l'histoire. Hein. C'est, et alors, moi ce qui me choque d'autant plus, c'est qu'Isaac, qui est quand même celui qui délivre la bénédiction, quand vous dites quelque chose à quelqu'un sous condition et que les conditions changent, vous revenez en arrière, vous dites « Attends, c'était pas prévu comme ça, hein, on est d'accord. » Et on revient sur sa décision. Eh bien, pas là. Ce qui est dit, est dit. Et donc, même si l'autre a menti tout le long, et pas qu'une fois, hein, si vous avez bien lu avec moi le texte, à plusieurs reprises, « Mais est-ce que c'est bien toi, Ésaü ?»« Oui, c'est moi, t'inquiète, regarde, touche. » Ah, mais c'est la voix de ton frère. Vous voyez, c'est pas juste un petit mensonge là. Ça va loin. Et le pire, c'est que toute la famille est dysfonctionnelle. On va le voir. Rebecca. Isaac. Jacob. Ésaü. En fait, ils sont tous à côté de la plaque. Mais voilà, on va regarder ça de plus près maintenant. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on a un texte difficile comme celui-là, parce que quand même la Bible dit à au moins deux reprises, dans Malachie chapitre 1 et dans Romains chapitre 9, que Dieu préfère Jacob à Ésaü. Et là, c'est Dieu qui parle, hein. C'est plus nous qui regardons le texte en disant « mince, est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai pas bien ?» Non, non, c'est écrit noir sur blanc, comme ça. On regardera ces textes dans le détail. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on a un texte difficile ? Et ça, c'est le même réflexe à chaque message. On regarde le contexte. Et la deuxième règle, c'est le contexte. Et la troisième, le contexte. En fait, la plupart du temps, et vous allez le voir ici, en regardant le contexte, on va répondre à cette problématique. Et on va y aller tout de suite. Alors, déjà, dans le contexte, est-ce que j'aimerais relever deux éléments importants. La première, c'est que si vous allez lire un peu plus tôt, il faut relire toute l'histoire, en fait, depuis le début. Et là, il faut remonter au chapitre 25, à la naissance de Jacob et d'Ésaü. Et ici, à ce moment précis, Rebecca va recevoir une parole de la part de l'Éternel. Il va lui annoncer quelque chose. Elle est enceinte et Dieu lui dit, voilà ce qui va se passer. Déjà, elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux. Il lui apprend. Et voilà ce qu'il lui dit. Donc le texte dit, l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Ah, pas terrible, hein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, il faudrait lire davantage. Il y en a un qui tient le talon de son frère, hein, le petit dernier, donc c'est Jacob, il tient le talon et il y a aussi un symbole ici. Mais bref, on va pas regarder tous les détails parce que sinon on s'en sortirait pas. En tout cas, Ésaü va naître en premier, donc c'est l'aîné, et à cette époque, il y avait ce qu'on appelle le droit d'aînesse. C'est pas la même chose que le droit d'aînesse que l'on trouve plus tard et qui sera légiféré par Dieu dans le Deutéronome. Deutéronome 21. Là, on va vraiment avoir une législation sur le droit d'aînesse et l'aîné aura le double de portion de ses frères. Quand il y a un héritage, lui touche le double. C'est comme ça. Mais au temps de Jacob, la loi n'était pas encore là. Le Deutéronome n'était pas écrit. On est dans la période des patriarches. Donc cette période où Dieu, à travers un homme qui était Abraham, va se constituer un peuple, il va se choisir un peuple. Et on va voir que ce peuple n'est pas parfait. Il n'est pas le meilleur des peuples. Ce n'est pas pour ça qu'il a été choisi. C'est la totale souveraineté de Dieu. Dieu choisit qui il veut et au travers de tous les humains, il a dit « Tiens, je vais me sélectionner ce peuple-là ». C'est Dieu qui choisit. Pas parce qu'on est meilleur, mais c'est parce que c'est lui qui choisit, voyez. Et ça, ça nous dépasse, mais c'est ce qu'on appelle l'élection dans la Bible. Et on la voit ici au travers de ce peuple. Donc un peuple imparfait, et c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième élément que j'aimerais relever, c'est que Ésaü va accepter la proposition de rachat de son droit d'aînesse. Donc Isaac, il avait un droit, mais a priori, il n'en avait que faire. On ne sait pas exactement à quoi ça correspondait. En tout cas, pour lui, un bon gueuleton au restaurant, c'était mieux que le droit d'aînesse, parce que c'est ce qu'il fait. Il a un bon plat de lentilles, bien cuisiné, hein, son frère avait l'air doué dans ce domaine-là, eh bien, il va lui racheter et lui dire, oh, de toute façon, tu sais, je vais bientôt mourir, mon droit d'aînesse, il ne me servira à rien. Donc, je te le vends contre en échange d'un plat de lentilles. Vous voyez ? Mais en fait, Jacob était malin, c'est qu'il est venu lui faire cette proposition dans un moment de faiblesse. Vous voyez ? Donc c'est pas n'importe quel moment. Déjà, on voit le côté fourbe de Jacob. Il vient à un moment de faiblesse et il saisit l'opportunité. Vous voyez ? Quand vous avez un acheteur qui vient et que vous êtes aux abois, il y a un divorce ou un décès, bref, une situation difficile et que vous voyez les requins arriver en vous faisant des propositions malhonnêtes. Ils vous proposent un prix râlé-pâquerette, mais comme vous voulez absolument vendre, vous êtes prêt à accepter. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe. Donc voilà deux éléments que je souligne qui vont nous aider à interpréter finalement le reste du récit. Alors on va maintenant regarder les quatre personnages. Le premier, eh bien, c'est Isaac. Je l'ai nommé le père aveugle, au sens propre comme au sens figuré. Hein, il devait entendre parce qu'il a réussi à reconnaître la voix de son fils Et d'ailleurs, ça l'a inquiété. Il disait, c'est bizarre, je touche. Là, j'ai bien Ésaü. Et quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre Jacob. Oui. Donc, il avait encore une bonne ouïe. Mais il était totalement aveugle. Et là, il va se faire flouer méchamment. Mais, il s'est fait flouer, effectivement. Mais aussi parce que lui-même n'était pas très clair. À votre avis, est-ce qu'il savait que le droit d'aînesse avait été donné à Jacob? Bien sûr qu'il le savait. Il était au courant. Et donc, il savait aussi, parce que sa femme lui a dit, Rebecca, que Dieu lui avait parlé et que le second allait prendre la place du premier. Vous voyez? Que l'aîné serait soumis au petit. Vous voyez? Donc, tout ça, c'était clair. Et qu'est-ce que fait Isaac? Du favoritisme. Il sent que c'est la fin et il veut bénir son aîné. Et déjà, il est dans l'erreur, Isaac. Il n'aurait pas dû faire ça. Et au lieu d'appeler les fils, il appelle son préféré. Et vous voyez, comme ils avaient le même, entre guillemets, péché mignon, ils aimaient la bonne bouffe. Hein, vous avez vu? Le grand, il a été attrapé par le restaurant, la gastronomie. Et le papa aussi. Son point de faiblesse. Ah, ouais, va me chercher un bon gibier là, on va se faire un bon gueuleton. Et vous voyez, c'était sa faiblesse. Et donc, Isaac, il va pêcher aussi dans ce domaine-là. Donc, favoritisme, en plus, excès de table. Je ne sais pas si c'est un excès, mais en tout cas, c'est quelque chose pour lequel il était capable de faire des compromis. Et puis de pas trop regarder. Enfin, il ne voyait plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, on a affaire à un père aveugle. Ensuite, le deuxième, c'est Rebecca. C'est une mère manipulatrice. Et là, on le voit clairement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend le discours entre Ésaü et Isaac. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va trouver son préféré. Encore un autre problème dans la famille, c'est que chacun avait son favori. Donc, elle, c'était Jacob. Et donc, comme elle veut et qu'elle sait que c'est Jacob qui doit obtenir la bénédiction, au lieu de laisser Dieu faire, eh bien, elle va aider Dieu, vous voyez? Elle va donner un petit coup de pouce à Dieu, parce qu'il en a besoin, Dieu, il n'est pas assez grand. Hein. Donc, elle va aider en manipulant son mari, et en manipulant aussi, au passage, Jacob. Hein. Parce que au départ, vous avez remarqué qu'il dit « Ah mais non, je ne vais quand même pas faire ça, parce qu'au lieu d'avoir une bénédiction, je vais recevoir une malédiction. Si j'ai obtenu la bénédiction de mon père en mentant, je vais avoir une malédiction. » Et il le dit textuellement, on l'a lu aussi. Donc il est conscient, mais lui non plus n'est pas si clair que ça. Et donc Jacob, il va accepter la mission, et vous avez vu qu'il était quand même volontaire, hein, parce que il se serait arrêté, honnêtement, quand on n'est pas vraiment convaincu. Son père dit, oh, là, je sens Ésaü, mais ta voix, là, franchement, ça ressemble plus à Jacob, hein. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ah ben, il s'est enfoncé dans son mensonge. Et là, jusqu'au cou, hein. Ah, mais non, t'inquiète, c'est bien moi, je suis bien Ésaü, ton fils, hein, il a bien insisté là-dessus. Donc, c'est pas juste un petit péché d'omission, là. Il était volontaire et il l'a fait de manière flagrante. Troisième personnage, Ésaü. Ésaü, et je l'ai appelé l'aîné charnel. Si vous relisez tous les récits concernant, c'est le début de la Genèse, hein, enfin le début, non, c'est pas le début, mais à partir du chapitre 25, vous allez voir la vie d'Ésaü. À aucun moment, il ne se soucie des choses spirituelles. Dieu, ça l'intéresse pas, vraiment. Son droit d'aînesse, moi je veux tout de suite, maintenant. Je veux mon héritage, hein, c'est un peu le fils prodigue. Quelque part, allez, donne-moi un bon plat, hein, c'est un petit peu, je veux mon héritage tout de suite, de toute façon, après, je serai plus là. Et puis, Dieu l'intéresse très très peu, en fait. Et il n'est pas meilleur que son frère. Parce que lui, il est aussi en loose day, là, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'il vient obtenir la bénédiction, alors qu'il sait très bien aussi, parce que c'était dans la famille, tout le monde le savait, que c'était Jacob qui devait l'avoir. Mais il accepte bien volontiers quand même d'aller obéir à son père pour l'obtenir. Voyez. Donc lui, il est manipulé par Isaac, mais il est aussi volontaire. Jacob est manipulé par sa mère Rebecca, mais il est aussi volontaire. Donc vous voyez, c'est que quand on n'est pas intègre, on se laisse corrompre à un moment donné. Et dans cette famille, les amis, on peut dire que c'est une famille dysfonctionnelle. Chacun son petit chouchou. Et puis, les uns et les autres pêchent d'une manière ou d'une autre. Soit ils sont fourbes, comme Jacob. Mais ça vient aussi du fait que peut-être que Rebecca n'avait pas d'autre choix. Son mari ne lui laissait pas la place, peut-être. On ne sait pas, hein, ici, le récit ne dit pas grand-chose. Mais peut-être qu'une fois que Isaac ouvrait la bouche, tout le monde s'écrasait. Et donc, elle était obligée de, vous voyez, de manipuler. Et malheureusement, ça s'observe encore aujourd'hui, tout ça, dans les familles. Hein. Je ne veux pas vous demander de lever la main, mais est-ce que vous avez aussi des dysfonctions dans vos familles, les parents, les grands-parents, et des choses qui se répètent ? Parce que Jacob, malheureusement, va refaire la même chose. Et lui aussi va se faire flouer par tous ses fils. Et lui aussi aura un chouchou. Vous voyez, on reproduit les mêmes travers dans nos familles. Jacob a subi ce favoritisme de son père. Et qu'est-ce qu'il va faire subir à Joseph ? Eh bien, la même chose. Et il y aura des conséquences graves, exactement comme lui va les vivre, parce qu'il va être obligé d'aller vivre chez son beau-père. Pourquoi ? Parce que son frère, il les a là. Hein. Il a tellement les boules qu'il veut le tuer. Il est en colère, et c'est normal. Mais il péchait déjà, vous hein, voyez ? Mais en plus, il ajoute la colère. Et donc lui, qu'est-ce qu'on fait quand on est fourbe ? On s'en va. On n'affronte pas le problème, on ne demande pas pardon. À cette époque-là, en tout cas, il ne l'a pas fait. Il fera plus tard. Mais dans cette période-là, on a affaire à des gens un peu charnels, hein, faut le dire. Et donc, on ne réagit pas avec l'évangile, avec le pardon, avec la grâce, mais on réagit en être humain, en système D. Et on fait un petit peu les choses derrière, comme on dit, derrière la... Il y a une expression. C'est quoi l'expression ? On fait les choses... Derrière la cravate, non ? C'est comment ? Par derrière, ouais. Il y a une autre expression, mais bref, je ne la trouve pas. C'est pas grave, on ne va pas mourir. Alors, on en vient maintenant à l'os. J'ai donné quelques éléments du contexte, parce que vous allez voir que ça va s'éclairer tout seul. En réalité, il n'y a pas qu'un seul problème, il y en a deux. La première question, c'est pourquoi Isaac ne revient pas sur ses paroles. Hein, ça, on l'a dit, ça paraît aberrant. Moi, c'est ce qui me choque le plus, finalement, dans ce contexte. C'est, mais pourquoi tu reviens pas ? Enfin, le gars, il te floue, pourquoi tu reviens pas en arrière ? Et la deuxième question, c'est est-ce que Dieu bénit vraiment le mensonge de Jacob ? On pourrait être amené à penser ça, mais vous allez voir que non. C'est une erreur de penser comme ça. Alors, première réponse à cette question-là. Pourquoi Isaac ne revient pas sur ses paroles ? En fait, ce serait tout à fait légitime, comme je l'ai déjà dit, de revenir sur ses paroles. Le contexte change, donc on s'est engagé dans un domaine, et puis le contexte change, et ben je reviens sur ma décision. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des droits de rétractation dans tous les contrats. Vous signez un bail, vous signez un achat pour une maison ou quoi que ce soit, une voiture, et vous avez, c'est dans le contrat, un droit de rétractation. Généralement, c'est 14 jours, mais bref, ça peut varier. Il y a très très souvent aujourd'hui un droit de rétractation. Et donc, on est habitué à ça, nous. On est au 21e siècle. En plus, c'est écrit, voyez. Alors que là, on est avec que des paroles. Donc, une parole... Quand elle est écrite, c'est difficile de dire « j'ai jamais dit ça », vous voyez ? Mais si les termes ont changé, le contrat n'est plus valide. Donc du coup, on peut le changer. Et donc le droit de rétractation va s'exercer jusqu'à la date. Mais là, on va dire que Jacob, bah, il ne fait rien pour changer les choses. Et il dit même « mais je ne peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. J'ai dit ce que j'ai dit, c'est fait ». Et là, vous vous dites, mais oh, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est pas ça votre réflexe. En tout cas, c'était le mien. Et là, j'ai été du coup obligé de regarder de plus près, parce que en fait, ça me choque. Eh bien, c'est parce qu'on est au 21e siècle. Dans l'Antiquité, les contrats, la plupart, étaient des contrats oraux. Et lorsqu'on disait une parole, ça nous engageait comme si on signait un contrat en bas d'une page. Je vous donne ici quelques exemples. En fait, une parole qui était prononcée solennellement dans un cadre formel, ça avait la même valeur juridique qu'un testament écrit chez le notaire. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on est choqué, mais quand on le sait, je vais vous donner des exemples. Hein. C'est un petit peu que lorsque vous êtes devant un juge, hein, quand vous prêtez serment, on vous dit « levez la main et dites « je le jure » ou « je jure de dire toute la vérité ». Quand vous avez dit cette phrase, tout ce que vous dites après, c'est irrévocable. C'est-à-dire qu'on le prend textuellement comme ça et vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est une déclaration formelle que vous avez faite sous serment. C'est un petit peu la même chose ici. En fait, il y a un site en Mésopotamie qui s'appelle Nuzi et il y a des archéologues qui ont mis à jour des sortes de tablettes juridiques. Et regardez, c'est des tablettes cunéiformes, c'est des contrats. Et dans ces contrats, aujourd'hui les gens savent déchiffrer, les spécialistes, hein, pas moi, mais les spécialistes savent déchiffrer ces tablettes. Et il y en a une qui révèle donc un cas où il y a un frère qui contestait l'héritage de son père, qui était mourant et qui lui a transmis. Je vous lis juste ce qui est écrit sur le texte, je pense que vous n'arriverez pas à le lire non plus, donc on fait confiance au traducteur. « Mon père, Ouya, était malade et alité, alors il a saisi ma main et m'a dit « Mes autres fils, étant plus âgés, ont déjà une femme, donc je te donne Sululi Ishtar comme femme. » Après avoir entendu les témoins, les juges se décidèrent en faveur de Tarmiya. Et donc, un testament purement oral prononcé sur un lit de mort avait bel et bien valeur, une valeur légale devant un tribunal. Et ce qui est génial, c'est que la formule par laquelle Isaac introduit sa bénédiction, hein, c'est au verset 2 du chapitre 27, il dit « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Eh bien, figurez-vous que dans ces tablettes, c'est exactement la même formulation. La même. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un indice que la Bible est un livre historique et qu'on ne raconte pas des fadaises. C'est exactement ce qui se passait à cette époque. Et donc, ça donne même du crédit. Donc, vous voyez ce qui nous intrigue. En fait, quand on lit, on dit « Mais il devrait revenir en arrière. » Quand on lit quelque part les écrits de l'époque, eh bien, on relativise parce que finalement, tout le monde faisait ça. Et c'était normal. Il y a un commentateur qui résume ainsi. Il dit « Elles ne pouvaient être, donc les paroles, ni révoquées, ni rétractées. Chaque parole prononcée dans une circonstance formelle et solennelle étant si puissante et si sacro-sainte dans les temps anciens. » Et vous savez que ce principe, on le retrouve un tout petit peu plus loin. Il faut lire le livre après. Et c'est Josué qui en parle. Josué, il va... Donc, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Ensuite, Nombre, Deutéronome. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Josué, Juge, Ruth. Josué 9. Et regardez ce qu'on trouve dans Josué chapitre 9. Les Gabaonites, donc c'était les gens qui habitaient sur le territoire de Canaan, mais qui n'étaient pas juifs, eh bien, vont tromper Josué. Alors qu'ils étaient là, ils vont se faire passer pour des gens qui viennent de très loin pour adorer le Dieu des Juifs. Et donc, ils vont mettre des habits usés, ils vont mettre du pain moisi dans leur sac et en disant « Ah, s'il vous plaît !» Et ils viennent voir Josué « Est-ce que tu peux nous accueillir ? On aime le Dieu, ton Dieu, hein, le Dieu d'Israël. » Et ils se font passer pour des gens bien qui viennent de très loin. Et Josué, il mord à l'hameçon. Sauf que Josué va l'apprendre. Et qu'est-ce que vous auriez fait à la place? Il est chef militaire Josué, il vient de dézinguer une ou deux villes. Donc on rigolait pas avec Josué à cette époque-là. Eh bien Josué a engagé sa parole et regardez ce que nous lisons. Il revient pas dessus. Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Ils auraient pu les tuer parce qu'ils le méritaient. C'était des gens du peuple étranger qui peuplaient Canaan, qui ont été avertis pendant plus de 4 siècles de partir, hein, qui n'ont pas voulu partir. On est venu avec eux, et ça c'était un des autres os de la Bible, on est venu en paix en leur disant « Écoutez, on va prendre possession de ce territoire, on vous propose une alliance de paix, de partir. Si vous ne le faites pas, on tuera tout le monde. » C'est ce qui se passait pendant la conquête. Donc il y a toujours eu la paix avant la sanction. Et là, pas de sanction. À cause de quoi ? Une parole. Vous imaginez ? Et donc, on voit dans l'écriture que finalement, c'était une pratique assez commune de l'époque. Alors, quand on prend le texte, vous voyez, nous, on y plaque humain du 21e siècle, on se met dans nos baskets et on regarde le texte et on est choqué. Mais dans l'Antiquité, ce n'était pas comme ça. Et au temps des patriarches, c'était normal. Ok ? Première objection écartée. Deuxième objection, pourquoi Dieu semble bénir le mensonge de Jacob ? Et je dis bien « semble ». En fait, Dieu ne bénit pas le mensonge de Jacob. Il faut être très clair là-dessus. Dieu ne bénit pas le péché. Hein. Dieu punit le péché. Et il dit clairement qu'il n'y a aucun péché qui sera impuni. Donc, la question, la réponse est claire, hein, c'est non, Dieu ne bénit pas le mensonge. La Bible, d'ailleurs, n'encourage jamais le mensonge ou la manipulation. Hein, il y a cette phrase qui n'est pas que les chrétiens qui la prononcent d'ailleurs, hein, mais la fin ne justifie jamais les moyens. En tout cas, c'est un principe biblique qu'il faudrait vraiment toujours avoir. Quand il y a une situation, même si ça vous avantage, restez droit, restez intègre. Dieu sera juge, mais nous, on doit rester droit et juste. Dieu ne bénit jamais la tromperie. En fait, ce que Dieu bénit, en fait, c'est sa propre promesse ici. Il avait choisi Jacob. C'est lui qui a défini. Ils n'étaient même pas nés. Ils n'avaient pas encore respiré que Dieu avait déjà prononcé cette sentence. Le petit dernier, Jacob, qui est le deuxième qui va naître, il va dominer sur le premier, point barre. C'est moi qui choisis, d'accord ? Et c'est ça l'élection. Dieu choisit. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et on va retrouver ça. Vous voyez, Genèse 25, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et on retrouve exactement la même terminologie. Alors le texte semble choquant ici. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Nous le retrouvons. Hein. Vous devez haïr votre père ou vos mères. Hein. Celui qui n'haït pas son père ou sa mère. Jésus le dit comme ça. Mais le mot et l'expression hébraïque n'a pas ce sens de haine. D'accord ? Ce n'est pas du tout affectif. C'est une priorité, un choix. D'accord ? Quand on choisit, on élimine l'autre, forcément. Hein, vous choisissez votre épouse, vous mettez un trait sur toutes les autres. La Bible pourrait presque dire, j'ai choisi, alors tiens, si on prend le cas de Pascal, il dit, j'ai aimé Anne-Laure et j'ai haï toutes les autres. Est-ce que c'est un terme affectif ? Non, il a choisi Anne-Laure, point barre. Et donc, il ne regarde plus les autres. C'est comme ça. J'ai choisi Sandrine et je haïs toutes les autres. C'est un petit peu ce que ça voudrait dire ici. Donc, en fait, quand Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, c'est vraiment une question de souveraineté de Dieu. Il choisit. Il les a aimés avant même qu'ils naissent. Donc vous voyez, ce n'était pas une question de « il est meilleur que l'autre ». On n'est pas là. Ils n'avaient pas vécu encore. Donc c'est vraiment un choix divin. Après, Dieu sait ce qui va se passer. Il est aux commandes de l'histoire. Mais en tout cas, ce n'est pas une question d'émotion, d'affection ici. Paul y reprend la même expression en Romains 9:13 pour montrer que le choix de Dieu ne repose pas sur les œuvres hein, que Jacob ou Ésaü auraient pu faire, mais sur celui qui appelle. C'est littéralement, je viens de vous lire le verset 11. Donc, c'est pas les œuvres, mais c'est Dieu qui appelle. C'est lui qui choisit. Alors, ce que Paul en tire en Romains 9, c'est simplement que c'est un choix souverain et gratuit de Dieu, antérieur à toute œuvre, bonne ou mauvaise, des deux frères. Et c'est ce que Calvin appelait la seule élection de Dieu. Dieu, en fait, choisit qui il veut, sans condition préalable. Jacob a couru après cette promesse par ses propres moyens, avec ruse et mensonge, et au lieu de faire confiance à Dieu pour l'accomplir en son temps, eh bien, il va payer cher de cette impatience. Voyez. Donc Dieu regardera ensuite le parcours, mais ce n'est pas son choix ici quand il dit qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü, n'a rien à voir encore avec la vie, parce que c'est un choix divin dès le départ. Mais leur vie va démontrer ce que Dieu a choisi. Leur vie va le démontrer. Alors, comment on peut appliquer ce texte ? Je vous propose 4 points d'application. Le premier, eh bien, c'est que Dieu est souverain malgré les injustices qu'on peut subir. Et on en subit tous. Et les chrétiens, encore plus que les autres. Parce qu'on est sur un champ miné et qu'on est la minorité. Et quand on a affaire au monde, ils vont tous dans une direction avec une certaine éthique. Et vous, vous arrivez avec votre éthique et vous allez à contre-courant. Et donc, forcément, vous allez subir des injustices et peut-être plus que la moyenne. Cette semaine, notre frère Dongai, qui est là, je lui ai demandé l'autorisation, si je pouvais partager ce qu'il a vécu. Il revenait de vacances, il était tout content en volant de sa voiture, et il y a quelqu'un qui le double à grande vitesse. Il se trouve que le flash était juste entre les deux voitures. Et donc, ils ont flashé Dongai à la même vitesse que cet homme. Dongai s'est vu retirer son permis immédiatement et sa voiture. Pour le moment, 5 mois de retrait de permis. Ok, donc Dongai est rentré juste de ses vacances. Ça s'appelle une injustice. Et donc, bien sûr, il a fait appel à un avocat. Priez pour lui, honnêtement. Là, on est en train de solutionner. Il a dormi à la maison cette nuit. Pour aller à son travail, c'est une grosse galère. Il habite très loin de son lieu de travail. Donc voilà, une injustice. Une deuxième injustice, mon stagiaire, Analia et Mathias, étaient avec leurs enfants sur la route des vacances. Ils étaient eux aussi contents d'y aller. Sauf que la voiture est tombée en panne. Résultat, ils sont rentrés en taxi et puis il a dû amener la voiture chez un mécanicien ici à Annemasse qui a bien voulu le prendre. On lui annonçait on ne peut pas vous prendre avant le mois d'octobre. Bah, peut-être que j'aurais besoin de ma voiture avant. Hein, on a juste 4 enfants. Donc il a déposé sa voiture chez un escroc. Probablement. On n'a pas encore confirmation, mais ça traîne. Et à chaque fois, on lui rajoute des heures de main-d'œuvre. Et ça sent l'escroquerie. Donc vous pouvez prier pour cette situation. Parce qu'ils ne sont pas fortunés, hein. Les stagiaires en général n'ont pas de travail, donc ils dépendent des dons. Donc vous voyez, on n'a pas envie d'engraisser les escrocs. Mais il se trouve qu'on est dans un monde déchu. Vous voulez que j'en raconte d'autres? Parce que je peux rester pendant 3 heures là. Hein. En fait, on vit tous des situations injustes. Tous. Sans exception. Et on en vivra si on n'en a pas encore vécu. Le problème, c'est notre manière de réagir à ça. En fait, si on est comme Jacob ou comme Rebecca, eh ben on va prendre les choses en main et on va vouloir régler nous-mêmes les choses. Ça ne sous-entend pas qu'on n'a pas le droit de faire intervenir un avocat ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, réagir d'une manière charnelle. La colère. Qu'on soit en colère, c'est normal. Mais qu'on réagisse avec violence, c'en est une autre. Okay ? Et donc là, on doit vraiment réfléchir et nous souvenir que Dieu y reste souverain. Regardez cette situation. Dieu a béni Jacob. Quoi qu'il en soit, il va le bénir. Mais Jacob va passer par des moments difficiles. On va le voir après. En tout cas, Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Don Carson, il résume bien ça. Il dit « Derrière les manœuvres de Rebecca, l'égoïsme d'Ésaü, la faiblesse d'Isaac et la ruse de Jacob, Dieu accomplit mystérieusement ses desseins pour amener la lignée promise au but qu'il lui a assigné. » Et ça, ça me rassure aussi. C'est que ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de famille exemplaire pour accomplir ses buts. Quand je dis exemplaire, si, mais parfaite, vous voyez. Il y a des dysfonctions même dans les familles chrétiennes. Et Dieu va accomplir son plan, quoi qu'il en soit. Ça, c'est vraiment une leçon que je retiens. Alors attention, on n'est pas de la lignée du Messie, mais on peut contribuer à notre manière à l'avancement du royaume de Dieu. Dieu nous demande d'être des lumières, donc éclairons. Si on devient aussi ténébreux que les autres, on ne joue plus notre rôle de lumière ni de sel. On doit influencer positivement les autres. Et c'est pour ça qu'on doit se démarquer à un moment donné. Dieu se préoccupe davantage de notre intégrité et de notre désir de lui plaire que de nos circonstances finalement. Donc vous voyez, les circonstances, elles vont révéler où on en est avec Dieu. Jacob, il n'était pas très proche de Dieu. Il était probablement avec Dieu, en tout cas sur le chemin, mais Ésaü, lui, était loin. Et il s'en est écarté. Et lui, ça a duré toute sa vie. Deuxième application, elle est là, elle est à droite, c'est que Dieu fait grâce aux trompeurs repentants. Alors, c'est vrai que la vie de Jacob, elle n'a pas très bien commencé. Et je vous le répète, mais la fourberie n'est pas une vertu chrétienne. D'accord ? L'hypocrisie, le mensonge, ce n'est pas une vertu chrétienne. Et je sais qu'il y en a, j'ai rencontré des chrétiens, des jeunes dans la foi, qui étaient mythomanes, littéralement, qui inventaient plein de choses. Et ils savent tellement bien le faire, parce qu'ils le faisaient depuis qu'ils étaient tout petits, qu'ils nous roulent dans la farine. Mais le jour où le Seigneur vient et met un coup de pied là-dedans, ouf, ça fait mal. Ça fait très mal. Et avec Jacob, il ne va pas le lâcher. Dieu l'avait élu et il va le poursuivre. Et vous connaissez les épisodes. Dieu va châtier son fils. Et contrairement à Ésaü qui, lui, va faire ce qu'il veut, Jacob va être pris entre les mains de Dieu. Et donc, il va l'amener à se repentir. Vous vous souvenez de cette bagarre ? Donc, Jacob va sortir vainqueur, mais estropié. Il va boiter toute sa vie. Ça va lui rappeler qu'il doit se soumettre au Dieu créateur, qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu, qu'on doit le craindre, qu'on doit l'aimer et le craindre. Et même si Jacob va, on va dire, dominer son frère, pendant quelques années, il a fui. Hein. Il a dû travailler 7 ans pour Laban. Il épouse, soi-disant Rachel, on lui fourgue Léa. Pas terrible. Le jour du mariage, est-ce qu'il avait trop bu? Est-ce qu'il faisait noir? On ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est une question qu'on peut aborder. Tiens, dites-moi. En tout cas, il veut se marier avec Rachel, la plus belle, forcément. Et on lui donne l'aîné. C'est comme ça qu'on fait chez nous, Laban, il dit. Hein. C'est normal. Et non. Et donc, vous voyez, il se fait flouer de la même manière qu'il a floué les autres. Dieu nous rattrape, les amis. Quand je vois des chrétiens qui ne règlent pas leurs problèmes, qui changent d'église, ne vous inquiétez pas. Ils vont recréer exactement. Et Dieu va créer la situation analogue et ils vont vivre la même trahison qu'ils ont fait subir aux autres. Dieu ne nous lâche pas s'ils sont chrétiens. Sinon, c'est comme Ésaü. Il nous laisse vivre. Et la fin, elle est plus terrible. Mais beaucoup plus terrible. Parce que nous, on va souffrir. Mais on est avec Dieu. Et Dieu va transformer Jacob. Et Jacob va finir par faire du bien aux siens. Et il va faire partie de la lignée. Hein, l'expression, vous la connaissez, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Jacob, ça va devenir Israël. C'est lui, hein, le fourbe. Le fourbe, il va devenir Israël. Et là, mes amis, quand on voit ça, quand on voit le côté vraiment impertinent de Jacob, le début de sa vie en tout cas, on se dit que Dieu est grand et qu'il peut vraiment tracer des lignes droites avec des courbes. C'est Dieu qui fait ça. C'est lui qui transforme. Nous, on ne peut pas. Mais si vous êtes entre les mains de Dieu, dites-vous que là où vous en êtes, peut-être que vous êtes fourbe, hypocrite, je ne sais pas, hein. Peut-être, mais Dieu veut prendre les rênes de votre vie et il veut vous transformer pour que vous soyez utile à son royaume. Troisième application, et bien c'est la même un petit peu que celle-là, mais au niveau plus large, celle de la famille. Parce que Dieu va utiliser Jacob, il va utiliser, alors Ésaü non, mais il va utiliser Isaac aussi. Et on a vu qu'il avait ses chouchous, mais Dieu l'a quand même utilisé. En tout cas, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas de parents parfaits. Et ici, on a vraiment un panorama d'une famille imparfaite. Mais Dieu, si Dieu intervient, il peut changer ses dysfonctionnements. Ça doit nous encourager, les amis. Peut-être que c'est même votre propre famille maintenant, votre épouse et vos enfants. C'est peut-être un peu le chaos. Soumettez-vous à Dieu. Remettez-lui votre famille entre ses mains. Et il va changer, il va transformer le mal en bien, comme il l'a fait avec Jacob et comme il va le faire avec Joseph par la suite. On va subir des difficultés, les deux en ont vécu, mais Dieu reste au contrôle. Si Dieu est dans l'équation, les amis, on a toute raison de penser que ça se terminera bien. Dernière application, Dieu discipline ceux qu'il aime. Ésaü n'a jamais été discipliné. C'est ce que dit Hébreux 12, hein, au verset 6. Dieu châtie ceux qu'il aime. Par contre, les autres, il les laisse. Ésaü, il a été laissé. Et finalement, sa vie, elle n'a pas servi à grand-chose. Au final, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Ça, c'est un autre verset dans 1 Pierre. Paul Washer disait, Dieu a laissé Ésaü être Ésaü. C'est ce qu'il y a de plus terrible, les amis, que vous restiez vous-même. Parce qu'on est égoïste. Il était dès le départ. Lui, il voulait tout ce qu'il y a de maintenant. Je veux mon iPhone tout de suite, vous voyez. Le 16 ou le 17, je ne sais pas quel numéro. 18, bon, vous êtes comme moi. Peu importe. En tout cas, il voulait tout de suite. Et en fait, il est resté comme ça toute sa vie. C'est ça le problème. Jacob n'était pas mieux au départ, hein, mais il va être transformé. Et il va se laisser transformer par Dieu. Le plus difficile, finalement, c'est de ne pas venir à Dieu. Parce que là, les amis, il n'y a rien au bout du tunnel. Si ce n'est une vie éternelle, loin de la face de Dieu. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Je le souhaite à personne. Donc, peut-être que c'est le moment de se positionner, hein. Jacob, il a eu une vie, on peut dire, foireuse, hein. Mais à un moment donné, il s'est tourné vers Dieu, il s'est aligné avec Dieu, et Dieu l'a béni. Ça a pris du temps, ça a fait mal, mais il est arrivé. Le plus dur et le plus tragique, ce serait de laisser Dieu de côté. Bon, on verra plus tard. Tu sais pas. Personne ne sait quand il va s'en aller. Vous savez, pendant les vacances, on partait en vacances et j'ai eu un appel. Quelqu'un qui était dans notre groupe de maison, alors pas ici hein, à Genève, mais qui était dans notre groupe de maison avant à Dijon, a eu un AVC. Ça, c'était le vendredi. Le lundi, il était mort. Et là, waouh, ça nous a fait bizarre parce qu'on ne s'attendait pas que ce soit si rapide. J'ai dit, oh, bah tiens, on viendra le voir, il est à l'hôpital. Ouf. Ça peut arriver très vite. Très, très vite. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être clair avec Dieu.